L'imaginaire est toujours au Festival Utopial de Nantes, en compagnie d'un des plus importants auteurs de l'SF francophone actuel. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Vous avez déjà abordé le futur dictatorial dans la zone du Dor, et puis ensuite l'exploration d'un monde balayé par les vents dans la Horde du Contrevent. Votre troisième roman, Les Furtifs, est sorti ce printemps aux éditions La Volte. Il prend place dans un Paris hyper technologique où aucun habitant n'échappe à surveillance. Et là, on a Lorca qui a perdu sa fille. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, on ne sait pas, justement, c'est tout le début du thriller. Moi, j'appelle ça un thriller éthologique, c'est un thriller sur la découverte d'un comportement animal spécifique. Donc on pense qu'elle est partie avec des furtifs, donc avec des êtres très particuliers, puisqu'il n'y a aucune espèce de trace, d'aucune sorte, ni sur la fenêtre, les montants, les volets, etc. Donc c'est comme si elle s'était volatilisée, mais le père a la conviction qu'elle est partie d'elle-même vers des êtres absolument fascinants, ouais.
Donc il y a un paradoxe, parce qu'on est vraiment dans une société où vous décrivez une société où vraiment tout est tracé. C'est pas une dictature, mais c'est plutôt une société d'hyperconsommation, d'hypersurveillance, d'autosurveillance. Et là, il y a un gros paradoxe. Effectivement, quelqu'un disparaît sans laisser de traces. Et on découvre les furtifs. Mm-hmm.
Oui, donc c'était l'ambition, c'est-à-dire c'était de dire qu'est-ce que ça serait des êtres intraçables, voilà. Qu'est-ce que dans un monde complètement contrôlé comme le nôtre, c'est-à-dire qui génère, où chaque acte génère une information, parce qu'on vit dans des réseaux et on produit de l'information à notre insu en permanence, c'est comme si on faisait pipi et caca partout, mais on s'en rend pas compte. Comment dans un monde comme ça, trouver un angle mort, comment trouver un endroit qui ne soit pas vu, qui ne soit pas perçu. Et donc les furtifs, c'est ça, c'est l'incarnation, en tout cas la métaphore de ce qui serait l'intraçable dans ce monde-là. Ouais.
Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres romans et qu'on retrouve aussi là. C'est un jeu avec les mots, il y a beaucoup de jeux avec les mots, vous jouez avec les sonorités. Ça a un sens dans ce roman, les sonorités ?
Bah, particulièrement, parce que c'est un roman qui met un peu en tension, en conflit, la dimension visuelle et la dimension auditive. Quoi. C'est-à-dire moi j'associe le visuel, l'optique, le panoptique à une dimension de manipulation, on le voit par les publicités, on le voit par les vidéos. Ça reste le sens numéro un utilisé quand on vous fait vous faire vendre quelque chose ou susciter du désir, la vue. Et par rapport à ça, moi, j'ai toujours ressenti le son, et la radio en particulier, mais aussi la musique, comme un vecteur d'émancipation. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup moins intrusif dans le son. Et le son te permet de fabriquer toi-même tes images, donc de susciter justement un imaginaire fort. Ce que, pour moi, permet beaucoup moins le cinéma. Alors, tu vas me dire, évidemment, les grands réalisateurs se suscitent par leurs images un imaginaire, mais tu as aussi beaucoup de productions formatées qui font écran à l'imaginaire, où l'image va faire vraiment écran à l'imaginaire. Donc, c'est une valorisation du son, et c'est même presque une ontologie par le son, puisque les êtres sont nés de chair et de son dans les furtifs. C'est une vibration fondamentale, comme ça, un rythme fondamental qui les crée, mais qui fait entrer en résonance la matière et qui leur permet de se déployer. Donc, ce que j'appelle le frisson dans le livre, pour moi c'est un peu une métaphore de ma conception même de la matière, c'est-à-dire que la matière est mouvement, pour moi c'est une vibration de départ. C'est la théorie des cordes, hein, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que t'as la théorie de l'atome, puis t'as la théorie ensuite des quarks, et puis en dessous tu aurais la théorie des cordes, c'est une espèce de corde comme ça, circulaire, qui serait en vibration, et qui serait le plus petit état de la matière, quoi. Et finalement, après coup je me suis dit, tiens, c'est marrant, finalement mon délire sur le son a presque un fondement scientifique possible. Donc c'est ça, ouais.
Alors c'est vrai que le son, c'est difficile à faire passer dans un roman, mais il n'y a pas que le son, il y a quelque chose, il y a aussi le graphisme, et puis il y a le mouvement, comme vous venez de le dire. Mmh. Tout est lié, le mouvement, le graphisme, on retrouve aussi les symboles qu'on trouve dans les autres romans pour identifier les personnages. Tout ça, c'est un tout ?
Ouais, c'est un tout, parce que c'est paradoxal, mais l'écriture, voilà, c'est très pauvre d'un point de vue sensuel. Un livre, puisque tu as juste des lettres noires sur une page blanche, donc tu es presque en déficit sensoriel en te disant qu'est-ce que je peux véhiculer. Alors évidemment, les mots indiquent des sensations, etc., mais la première sensation, c'est forcément l'oralisation, c'est-à-dire quand tu dis des mots, quand tu oralises tes phrases, quand tu les parles, et effectivement, se produit tout un ensemble de sensations, tu véhicules un rythme, une musique, des effets de la sonance, de l'allitération, etc. Mais il y a aussi, dans la page, une dimension visuelle, là pour le coup, qui porte un tout petit peu de sensation, c'est la forme des lettres, donc la typographie, une forme de lettres spécifique, et puis aussi tout ce qu'on appelle les signes diacritiques, les apostrophes, les points volants, etc. Et ça, je trouve que ça mêle aussi une forme de sensation. Donc quand tu écris, tu te dis, ben, pourquoi ne pas utiliser toutes les potentialités que j'ai à ma disposition, même dans la mise en page, le jeu sur les espaces blancs, les espaces noirs, etc. Certains poètes lettristes l'ont fait, Mallarmé l'a fait, etc. Donc il n'y a pas de raison de se priver de ça, si c'est fait intelligemment, si c'est fait sobrement, si ça sert le récit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Là, j'ai vraiment bossé avec une typographe, quoi, qui a travaillé spécifiquement sur ces signes, quoi.
Alors, dans ce roman, on a surtout un homme qui, et sa femme qui recherchent leur fille qui a disparu. C'est Lorca qui recherche Tichka, sa fille. Il va tomber sur des énigmes, en fait. Les furtifs, qu'est-ce que c'est? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Il y a des glyphes, ils ont laissé des glyphes qu'il faut décrypter. On est dans le thème des utopiales, là. Ça tombe bien.
Ah, mais là, j'ai fait plein de tables rondes et aucune n'a porté là-dessus. Donc vraiment, je suis super déçu. En fait, oui, parce que ce langage que j'appelle le CRIF, hein, le CRIF, ça vient, c'est le même mot que crypté, en fait. Hein, ça veut dire caché, quoi. Et c'est un langage qui cache les lettres les unes derrière les autres, quoi. Donc c'est ça qui est génial. C'est si tu mets un... Par exemple, un D, ben, tu peux cacher un A minuscule derrière. Si tu le retournes, tu caches un B. Si tu le retournes, tu caches un Q. Si tu le retournes, tu caches un P, etc. Donc, il y a tout un jeu là-dessus où les furtifs savent comment cacher les lettres les unes derrière les autres. Et donc, tout un jeu de décryptage, d'encodage, décodage. Et c'est génial parce que ça permet aussi d'alimenter le thriller, d'alimenter le processus de découverte, d'énigmes. Ça, c'est toujours puissant en narration parce que tu vas de dévoilement en dévoilement et tu as envie de savoir ce qu'il y a derrière ça. Donc ouais, alors là on est en archi dans le thème. Mais j'ai eu aucune table ronde là-dessus, c'est scandaleux.
C'est bien qu'on en parle. Alors justement, on va peut-être encore un peu plus en parler, parce que effectivement ça sert au propos, puisque à un moment donné il y a une énigme, et puis on voit que les gens y répondent de leur manière, ils se projettent finalement là-dedans, puisqu'ils n'ont pas forcément les règles,
ouais,
ils se projettent,
ouais, complètement.
Et ils ne trouvent pas du tout les bonnes solutions, ouais, au départ, ouais. Et les mêmes solutions. Et ça révèle aussi ce que sont les personnages.
Moi j'adore ce passage, t'as complètement raison et c'est très bien vu, mais j'adore ce passage pour ça, parce que en fait c'est de dire que par rapport à une énigme insoluble, parce que c'est insoluble, on a bon, après on a la solution, mais ce qui est fabuleux, c'est de se dire que c'est un portrait inversé des gens, c'est-à-dire que ça permet de leur interprétation en dit mille fois plus long sur la vérité de ce qu'ils sont que sur la vérité de ce qu'ils essayent de trouver ou de chercher. Et je pense que c'est vrai dans tout art, c'est vrai dans tout travail de recherche, quoi. C'est-à-dire que ce sur quoi cherche un chercheur en dit 10 fois plus long sur ce qu'il est lui que sur la recherche elle-même. Et ce qu'écrit un auteur en révèle 1000 fois plus long. C'est toujours une biographie involontaire, même quand tu travailles comme moi sur l'imaginaire ou des livres imaginaires qui paraissent très peu biographiques. Enfin, furtif l'est beaucoup plus, mais j'ai fait des livres qui tu te dis non, mais il n'y a rien de biographique dedans. Et en fait, c'est toujours un portrait involontaire ou en tout cas une biographie involontaire de... Donc ça j'aime bien, ouais, cet effet de réverbération.
Ouais. Alors il y a aussi autre chose, hein, c'est pas qu'un livre d'aventure ou de fiction, c'est aussi, là on retrouve des thèmes qui vous parlent, des thèmes politiques, par exemple sur les gens qui sont au dehors de la société.
Oui, bah ça c'était vraiment une ambition majeure du bouquin. C'est-à-dire que oui, je mets un fond dystopique en place, et un peu cauchemardesque, qui est l'aboutissement un peu de l'ultralibéralisme tel qu'on le voit aujourd'hui. On privatise les villes, on privatise l'éducation nationale, on porte tous des bijoux connectés, etc. Et on est soumis à une captation très étendue de notre attention, de nos traces. Et en même temps, je voulais faire monter en parallèle, et de façon beaucoup plus forte et convaincante, toutes les façons alternatives de lutter contre ça, de résister, de proposer d'autres modes de vie. Et là, je mets en place un ensemble de mouvements, la Céleste, la Traverse, les Aguises, parce que c'est des zones autogouvernées. Il y a plein de mouvements qui sont mis en place et qui permettent de montrer d'autres modes de vie, d'autres façons de fonctionner, d'autres... voilà. Et des façons d'aller au-delà du capitalisme ou d'aller en dessous le capitalisme, en tout cas d'y échapper et de ne pas être sous ce régime de spectacle, consommation, hyper-consommation, individualisme exacerbé dans lequel nous, on patauge et on vit... quotidiennement, quoi, voilà. Donc c'est aussi le but aussi de la SF, c'est de tracer des horizons désirables au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, en disant, ben, vous voyez, il y aurait des possibilités de faire autrement. Je vais vous les montrer, je vais les mettre en récit, je vais essayer de vous faire miroiter en tout cas ces enjeux-là, ouais.
Alors effectivement, il propose beaucoup de solutions.
Ouais, ouais.
On voit dans les personnages justement l'inter là, qui essaye de s'installer là où il y a des vides. Il y a donc les furtifs qui en sont le symbole aussi, puisque
bien
les furtifs
sûr, ouais.
sont intraçables et justement dans ce monde-là. Et puis, il y a ces moments d'utopie, aussi des moments de dystopie qui remettent le lecteur un peu à sa place,
Ouais.
comme dans la scène où il y a des vendiants. On peut un peu
Ouais,
parler de cette
ouais.
scène-là qui est quand même assez frappante.
Moi, j'y tenais beaucoup parce que il y a toujours le risque quand tu développes, et je l'avais fait un peu la zone dehors, c'était un peu un problème, mais que tu as. C'est un peu idéaliste, tu vois. Si tu poses des choses un peu idéalistes sans conflictualiser ton récit, c'est un peu. C'est de dire une chose très simple, et tu le vois sur les zadistes, tu vois sur les gens qui méditent beaucoup, c'est qu'il y a toujours un moment où ils passent par la case garde à vue, ils passent par la case parfois peine de prison, ferme, sursis, et tu as toujours un moment où la patrouille te rattrape, ou en tout cas le pouvoir te dit tu as été trop loin, et essaye de te remettre à ta place. Et je voulais montrer ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste on s'éclate, on va sur les toits et on se balade en parapente, c'est qu'à un moment donné tu payes cash ce que tu as fait ou tenté de faire. Et que le pouvoir est sans pitié par rapport à ça. Et ça peut être le pouvoir judiciaire comme le pouvoir économique. Et là, je me mixe les deux, puisque c'est comme des travaux d'intérêt collectif, mais tu travailles pour des boîtes privées quand t'exécutes ta peine. Donc c'est voilà, tu mendies des ventes, donc tu es un vendiant, et dans des statuts ultra précaires, et qui correspondent en plus idéologiquement à absolument l'opposé de ce que ces gens défendent et veulent créer, quoi. On t'oblige à vendre des voix, personnaliser des trucs, alors que toi, t'es anticapitaliste au possible, quoi. Donc je trouvais ça important de montrer cette. J'aime bien cette scène, je trouve qu'elle est très ancrée, très réaliste, et très mélancolique, ouais.
Et ça pose aussi une question dans le sens quelle va être la solution en fait, à cette exploitation? Est-ce qu'il y a une solution pour sortir de cette dystopie?
Il y a plein de solutions, mais justement, il y a les solutions extrêmement variables. Il ne faut pas essayer de trouver une solution, parce que si tu trouves une solution, ça veut dire que tu remets un système normatif en place et qu'on te dit, voilà, la révolution, il y a une seule façon de la faire. Non, il y a plusieurs révolutions possibles, il y a une infinité de révolutions possibles qui peuvent se produire sur des petites communautés, des communautés un peu plus grandes, à différentes échelles, etc. Et c'est parce que c'est pluriel et plural que on va en sortir. Si tu te dis, bah, je vais te mettre un nouveau communisme en place ou un nouvel anarchisme en place, ou. À mon sens, t'aboutiras à rien parce que tu vas réendoctriner les gens au niveau de cette valeur. Il faut garder cette pluralité des perceptions, des envies, des désirs, et essayer de se créer les réseaux affinitaires pour les porter dans des territoires donnés, peut-être localement, etc., sans vouloir d'un coup structurer tout le monde autour de la même révolution, tu vois. Donc ça, c'est important dans le bouquin, ouais. Et je le montre à la fin, il y a toute une ouverture vers tout un ensemble de bifurcations, de révolutions. Certains le vivent comme révolutionnaire, d'autres comme des bifurcations, d'autres comme des alternatives. Mais t'as plein de façons d'échapper au système. Et il faut garder ce champ ouvert-là. Ouais.
Alors, on s'approche de la fin de l'interview et forcément, la grande question qui passionne tout le monde, c'est quels sont tes projets à partir de maintenant?
Ah, j'en sais rien du tout. Enfin, si j'en ai deux très clairs et qui sont déjà en place, c'est une série télé, on va dire post-effondrement.
En tant que scénariste?
Ouais, en tant que scénariste, 2400, enfin, en tant que créateur de la Bible narrative et scénariste. 2400, l'Antarctique dégelée, la Terre a réussi à s'entretuer, il y a 10 000 survivants, et c'est la réinvention de Sapiens, moi j'appelle ça, c'est-à-dire qu'on réinvente nos rapports et à la nature et à la technologie en prenant acte que l'hypertechnologie a tout bousillé, donc comment on se reconstruit comme Homo sapiens dans ce monde-là. Ouais. Et il y a un projet de série radiophonique aussi, SF, ouais.
Notre interview va toucher à sa fin,
Ouais.
et comme d'habitude sur notre émission, tu as la possibilité de choisir la musique qui va clore notre interview.
Waouh!
Qu'est-ce que tu veux écouter?
Moi, j'ai envie de finir sur. Alors, ça dépend du temps que vous avez, mais sur Entrer dans la couleur, qui est le titre qui est à la fois le titre et de l'album que j'ai fait avec Yann Péchin, qui est le guitariste de Bachung, et qui figure dans le roman des Furtifs. C'est une sorte de manifeste pour le vivant, pour le renouement avec le vivant, et qui pose pour moi l'horizon désirable assez fort. Donc, oui, c'est ça que j'aurais envie de faire écouter. Si je peux.
Pas de soucis, on trouvera. Ça a été un vrai plaisir de t'entendre, Alain. Et on va devoir t'abandonner.
Putain, ça va ultra vite, ouais, c'est vrai que.
Le vivant. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, en lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime d'être vivant et d'en incarner d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance ? Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans qu'il s'effondre. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté. Donc, notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému. Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu. Ce sont des liens élus. À l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ses filtres subtils, sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Nos puissances de vivre relèvent d'un art de la rencontre, qui est déjà en soi une politique, celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit. C'est la capacité à se tenir debout dans l'ouvert, dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ouvert. Un champ d'intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile. Et puisque c'est la rencontre, le fait actif d'affecter et d'être affecté passionnément qui va nous hisser au vivant, il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, que de choses plus étranges comme rencontrer une musique qui te troue, un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise. Côtoyer un arbousier en novembre, épouser la logique d'une machine, rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige. Faire terreau pour que les liens vivent, les liens sociaux, collectifs et communautaires bien sûr, mais aussi amicaux et amoureux, filiaux ou familiaux. Puis au-delà et avec plus d'attention encore, les liens avec le dehors, le pas de chez nous, l'autre, soi, avec l'étranger, d'où qu'il vienne. Et plus loin encore, hors de l'humain qui nous rassure, les liens avec la forêt, le maquis, la terre, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. Peut-être n'est-il qu'une seule révolte au fond, contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions saturées et nos pensées qu'on mécanise, nos sensations éteintes. Être du vif, relever du vif. Les furtifs portent en eux et nous portent à nous comme un cadeau caché, dont le ruban est à défaire. Cette double révolution possible, celle des liens horizontaux à tisser sans cesse hors de nous, et celle des liens verticaux à intensifier en nous avec nos ascendances animales. Ce n'est pas l'un ou l'autre, l'un après l'autre, c'est tout ensemble une vitale insurrection, collective et intime. Pour porter au point de fusion nos puissances et en offrir l'incandescence à ceux qu'on aime, c'est un alliage et c'est une alliance. Être moins celui qui brûle que celle qui bruisse. Entrer par effraction dans le rouge ouvert, s'y tenir fragilement. Pouvoir entrer dans la couleur.